Gadget FM sur les ondes que tu peux écouter. Une fréquence, les horaires qui font du bruit. Avec DJ Chronique et des émissions. Si tu penses pouvoir écouter, je te prête ma radio. Des gens d'auditeurs qui aiment bien Helmut Schwarz. Il te donnera tout ce que tu veux si tu l'écoutes bien. Son émission avec Johnny est tous les jours. Elle s'appelle La Barge Russe. Elle est à 14h30. The Russian Fortune, le mercredi. Si tu penses que ça peut t'aller, c'est cool. Then I guess it should.
Welcome, les amis. Aujourd'hui, c'est la barge russe numéro 875 qui se nomme Antinomie parallèle. Donc, des thèmes qui se contrarient, disons, qui vont l'un pas forcément avec l'autre, et tout ça dans un monde parallèle. Qu'est-ce que tu nous emmerdes, Johnny? On comprend rien à ce que tu racontes. C'est un peu normal parce que ça rime un petit peu avec quelque chose que j'ai découvert, soit par inadvertance, n'est-ce pas? J'ai reçu donc Le Monde diplomatique de décembre 2023, 70e année, numéro 837, et donc je le parcours. Il en va de soi, je le reçois, je le parcours. Et donc là, je m'aperçois d'une chose, que le monde diplomatique est antinomique des sujets qu'il traite. Bon, c'est un point de vue, car sans le monde diplomatique, enfin, le monde diplomatique aide en tout cas, en toute bonne cause, à prendre conscience ou non de tout ce qui peut se passer à travers le monde. Voilà, antinomie parallèle. Alors, n'est-ce pas plutôt un pléonasme? Eh bien non, je ne crois pas. Je parle du monde diplomatique, je vais donc essayer de grossir les ventes du monde diplomatique en faisant ça. En parlant du monde diplomatique, donc le monde diplomatique... qui parle de politique française, l'ère du vide, de la Palestine, le spectre de l'expulsion et de la dislocation européenne, par Benoît Bréville, en première page. Donc, je veux dire que le monde n'est pas forcément très diplomate. C'est dans ce sens-là que j'entendais antinomie. Ne quittez pas... Et ce qu'on écoute là, c'est Bartok, des quartettes de Bartok. Ils sont deux CD. J'ai écouté le CD 1 sans rien faire, quoi. Je pouvais pas. C'était pas possible. Bon, là, deuxième, je me dis, bon, alors, là, on est au cinquième ou sixième morceau. Hein. Bon, peut-être que je m'y mette. Quoi. Alors, je m'y suis mis. Et je m'y mets. Donc là, ça fait combien de temps que je parle? Et on s'en rend pas compte, hein, mais ça passe vite. Hein. Ça fait, je sais pas, plusieurs minutes. Donc je vais vous lire la première page que j'ai lue, c'est Palestine, le spectre de l'expulsion. Enfin, tout ce que j'ai surligné, hein, donc c'est pas tout l'article non plus, parce que c'est des doubles pages à chaque fois. En tout cas, voilà, Palestine, le spectre de l'expulsion. Le Caire s'est catégoriquement opposé au transfert des Gazaouis sur son territoire. Personne. Et bon, la Palestine va être. Doit se vider de son territoire. Israël veut. La Cisjordanie veut Gaza. Et il est aussi question dans cet article, d'un autre article, une voie bâillonnée. C'était pas mal ça. Le Conseil d'État, le 8 novembre, le Conseil d'État a validé l'expulsion de Madame Mariam Abou Daka. Deux jours plus tard, elle embarquait vers le Caire. Les autorités, la droite et le Conseil représentatif des institutions juives de France n'auront cessé de perturber la tournée française de cette féministe palestinienne de gauche, organisée à l'invitation, entre autres, des amis du monde diplomatique. Le Caire est catégoriquement opposé au transfert des Gazaouis sur son territoire. Et ensuite... la Palestine... Ouais, j'ai pas tout souligné, mince. Mais la Palestine, c'est ça qui est en cause. Les représailles aveugles d'Israël en réponse au massacre commis par le Hamas sur son sol ont dévasté Gaza. Aux milliers de morts et de blessés s'ajoute désormais le risque d'un déplacement massif des Palestiniens. Voilà. Et un autre article juste en dessous. À Berlin, la politique du pire au nom du bien. Ah ouais, ça aussi c'est intéressant. L'allié indéfectible d'Israël pour des raisons historiques aisément compréhensibles, l'Allemagne a dérivé depuis le 7 octobre vers une position de soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite de Tel Aviv et réprime les populations musulmanes au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Et après, tu dis, bon, à la fin de l'article, je vais vous lire tout le paragraphe parce qu'il est intéressant, très intéressant. Israël comme rempart contre l'islamisme, l'antisémitisme comme prétexte pour juguler l'immigration. À la culpabilité historique allemande s'ajoute un calcul politique qui explique l'alignement empressé des dirigeants sur le gouvernement israélien. L'Allemagne ne devrait pas accueillir de réfugiés de Gaza, elle non plus, le Caire veut pas, l'Allemagne non plus. Cela aggraverait le problème de l'antisémitisme. Donc en fait, tu vois, ils vont pour l'extrême droite israélienne pour pas... je sais pas si c'est pour, mais c'est des raisons politiques. Et comme ça, ils recevront pas énormément de Palestiniens d'antisémitisme qui amènerait d'autres raisons antisémites, par exemple. L'alternative pour l'Allemagne, partie d'extrême droite qui se présente comme le plus intransigeant défenseur d'Israël, à la fois par connivence politique avec son premier ministre Benjamin Netanyahu et par islamophobie. Et on va continuer par cet article par rapport au vide. Un peu de vide. Pour parler du vide, il faut être dans le vide sonore. Donc, politique française, l'ère du vide. Et donc là, j'ai annoté plusieurs choses. suffit-il de connaître le terrain pour réenchanter la démocratie ? Et pris l'exemple d'Occitanie, et là, le vide, je vous en ai parlé il y a peu de temps, que les personnes qui craignent de se rencontrer, de se poser des questions, ont en réalité peur du vide, car les premières conséquences de se poser des questions, c'est d'être face à soi, faire un appel au vide. Premièrement, et avant que ce vide se peuple, il y a un petit peu de temps, il faut se poser quelques questions. Et donc, l'ère du vide, politique française, moi je pense que c'est plutôt politique mondiale, mais bon, là, c'est précisément sur la politique française. Et dans les mêmes instants, là, je suis en train de lire Condillac, Traité des animaux, et l'ère du vide. Et donc là, j'ai mis miroir de l'univers, le vide, pour moi, plutôt. Ou qui est aussi présent dans le regard des animaux. Quelqu'un qui va battre son chien sans raison est, comme dit Condillac, inférieur, même si je pense qu'il n'y a pas d'être inférieur ou supérieur, mais est, à mes yeux, faible. Faiblard. Mais en revanche, celui qui va vouloir apprendre à son animal, son chien, peut-être, ou autre chose... comment l'éduquer, quoi. S'il lui explique comme ça, en le prenant vraiment entre quatre yeux et lui disant les choses et qu'il ne comprend pas, bon, bah, il y a un moment, il va falloir le brusquer, quoi. Bon, là, c'est pas le taper pour rien. Mais ils sont comme les humains, ouais, donc c'est des personnes. Ok, c'est des personnes, les animaux. Ok, moi je veux bien. Mais donc, ça veut dire que chez les animaux, il existe aussi différents genres de personnes, donc d'animaux, différents genres d'esprits. Ils n'ont pas de raison. Ils ont de la réflexion, certains, mais certains, bon, tous, il n'y en a aucun qui n'a de la raison. Mais certains sont doués de réflexion et d'autres non. Un peu comme les humains. Ceux qui se posent des questions, c'est ceux qui ont de la réflexion, et ceux qui ne se posent pas de questions, c'est ceux qui n'ont pas de réflexion. Et comme je dis, se poser des questions, c'est pas se demander quelle paire de chaussures on va mettre le matin. Non, ça, c'est intérieur, afin d'évoluer plus sereinement dans la vie. Donc là, il parle de ça. C'est mes annotations qui sont plutôt ce que j'ai dit, et pages 16 et 17. Donc, nous y voilà, nous y arrivons. Alors là, ouais, donc j'ai annoté l'ère du vide. Fusion, régionalisation, métropolisation, ces réformes ont accentué les rapports de féodalité entre élus locaux. Ouais, donc c'était plus politique, vraiment politique au fond du truc. J'avais d'ailleurs envoyé une lettre au monde diplomatique qui, depuis mon point de vue, j'avais dit, mais vous n'abordez pas le monde. Après, c'est du journalisme, hein, d'accord, mais peut-être redonner des définitions aux choses, redéfinir. Oui, comme vous savez, à mes yeux, c'est pas là le problème, il est. C'est bien plus profondément que. Enfin, en fait, c'est très factuel, un journal, donc je leur ai dit, même si je savais bien qu'ils me répondraient jamais, et tant mieux. J'ai souligné. Observons ce signal faible dans plusieurs départements. Le constitutionnaliste Benjamin Morel y voit une marque supplémentaire de la déstructuration des forces partisanes au niveau local. Et là, j'ai annoté provocation du vide, de la peur de soi. Ben, tu détruis les forces, surtout en Occitanie. Tu détruis quelque chose. En Bretagne, ça a été. Moi, je vous donne des exemples qui sont des peuples à eux-mêmes dans la France. Donc cette dislocation, c'est un appel au vide, afin d'être occidentalisé de plus belle. Donc là, c'est plus ou moins juste, mais il faut encore donner des interprétations qui sont à chacun propres, bien sûr. Alors après, je reviens. Je suis revenu. Donc le monde diplomatique, antinomie parallèle, cette fois avec la dislocation européenne. Alors, c'est en première page de Benoît Bréville, qui est un rédacteur en chef du journal. Les dirigeants européens répètent qu'il n'est pas question de brader l'adhésion à l'Union. Ah ouais, il parle de l'Ukraine. Mais contrairement au précédent candidat, l'Ukraine n'est pas évaluée sur ses capacités à atteindre les fameux standards en matière de lutte contre la corruption, de respect de l'état de droit, de défense des minorités, d'équilibre budgétaire. Mais selon des considérations géopolitiques à chaud, elle va être prise parce que bon, il faut pour la guerre quoi, pour qu'on puisse l'aider. Mais on l'aide déjà. C'est politique tout ça. Hein. Et donc là, la guerre en Ukraine a rabattu les cartes. Désormais, l'élargissement figure à l'ordre du jour de tous les sommets. On discute d'une union à 36 avec l'Ukraine et la Moldavie, mais aussi avec la Géorgie et les Balkans occidentaux. Une politique vitale pour l'Union européenne, selon Madame von der Leyen, afin de contrer les influences russes et chinoises aux marges du continent. Mais les questions sans réponse s'empilent, soigneusement ignorées par les médias français. Comment seraient répartis les fonds de cohésion, les subventions de la politique agricole commune, les sièges de parlementaires, les portefeuilles du commissaire? Non, nous, on s'intéresse. Je pense que c'est assez important, mais bon, les Français, nous, on ne s'occupe pas de ça. C'est ce qui est dit. Hein. Ben, en gros, moi, je le dis d'une autre façon, mais c'est un peu la même chose. Et ensuite, l'Europe des années 1990 se trouvait divisée entre des États du Nord à la pointe du développement technologique et industriel et des États du Sud aux monnaies faibles, dépendant du tourisme et de l'agriculture. À cette fracture économique, l'élargissement des années 2000 a ajouté un deuxième clivage entre l'Ouest et l'Est. D'un côté, des salaires relativement élevés, des systèmes de protection sociale plus avancés, l'attachement à une certaine autonomie européenne. De l'autre, un réservoir à main-d'œuvre bon marché et une inclination atlantiste opiniâtre. Obnubilés par la menace russe, les pays baltes et l'Europe centrale comptent sur l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, autant pour assurer leur sécurité. Ainsi, le vieux continent, écrit-il, son avenir en amplifiant ses erreurs passées. Eh bien, peut-être que oui, pourquoi pas. Des erreurs, tant qu'on en a, on en fait d'autres. Un sentiment d'insécurité économique croissant dans les classes populaires de l'Ouest. Alors je leur dis, un sentiment d'insécurité économique croissant dans les classes populaires de l'Ouest. Celui d'une inféodation, d'une colonisation qui ne dit pas son nom à l'Est. Sans oublier la subordination, toujours plus accentuée, de l'Union à un empire américain déclinant. Ça c'est sûr que... Le petit père Biden, il est pas au sommet de sa forme en Amérique, aux États-Unis d'Amérique. L'Europe se disloque à mesure qu'elle s'élargit. Bien sûr. Parce que quand on est dans la merde, on veut que les autres viennent avec nous. Ah oui, c'est la loi. La loi du plus fort. Non, c'est la loi du plus con. Il con, oui. Je pensais. On a pu écouter Roll Over Beethoven, interprété par les Beatles, mais bien sûr de Charles Berry. Alors, bien sûr, en dernière page du Monde Diplomatique, étonnant. OVNI, bientôt la vérité. Alors, par contre, bon, c'est pas, ce qui est écrit, ce n'est pas surprenant du tout, c'est toujours pareil. Les États-Unis, la NASA et compagnie, le Pentagone, va authentifier a déjà authentifié des petits documents à propos de vie extraterrestre, mais bon, cette authentification, bien sûr, ne mènera nulle part pour nous petits gens, sauf que du côté invisible dont je vous parle très très régulièrement, ils sont présents. La force extraterrestre, pas les extraterrestres, mais la force extraterrestre au-delà de la Terre. Hein, on arrête avec E.T. OK ? La force, c'est la force extraterrestre qui est omniprésente, qui est humaine et à la fois naturelle et à la fois peut-être extra, enfin, et même extraterrestre, et pas forcément sur Mars ou Pluton, mais sur Terre. Extraterrestre, c'est le phénomène inouï, quoi. La force. Donc moi, je sais pas si ça vaut le coup que je vous le dise, parce que ce que j'ai souligné, en ce qui concerne d'éventuels contacts avec une civilisation extraterrestre, la poignée d'histoire demeurant étrange, occulte, médiatiquement, les 95 à 98 de phénomènes élucidés. Loin du sensationnalisme ambiant, des recherches sérieuses se poursuivent, comme au GEPAN, pionnier du modèle en la matière. Alors le GEPAN, je sais plus ce que ça veut dire, c'est français, c'est Centre National d'études spatiales. Non, ça c'est CNES. C'est groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. J'ai pas. Bon, ah, voilà.
Je l'ai allumé après manger. À 14h, c'était la barge russe. Johnny est là en train de parler. Elle me fait de la guitare. De battre mon cœur s'est arrêté. Sur le lit j'ai jeté mes disques. Tout contre elle qui est branchée. Ses harmonies m'ont rendu muet. Fatigué, je suis crevé. Toute la nuit j'ai écouté des émissions. Le silence c'est tellement bon. Johnny et Moussa sans contrefaçon. C'était le moment de la réflexion, 14h05, la quotidienne, et on se pose des questions, la barge russe, c'était femme.